Pie VII fait comme une sorte, on pourrait presque dire, de visite pastorale dans la France de l'époque. D'après les témoignages qu'on a, on peut considérer qu'il a rencontré environ 20% de la population française. C'est lui-même qui le dit à l'ambassadeur de France à son retour. Parce qu'il a drainé des foules absolument considérables, des 30 000, 40 000 personnes à Lyon à chaque fois. Enfin, c'est vraiment, toute la France se déplace pour voir passer Pie VII. Les gens sont à genoux le long des routes avec leur curé, avec le maire, avec le sous-préfet, avec le préfet. Il y a tout un cérémonial qui est organisé par décret de l'empereur et qui fait en sorte que les Français sont invités à venir voir passer le pape. Et comme ils sont dans leur immense majorité catholique, ils viennent et très nombreux.
On a l'impression que ce voyage du pape ressemble finalement au voyage des papes modernes de notre époque.
Ben, on est très frappé en effet de voir que finalement tout le monde veut voir le pape, on veut le toucher, on l'assimile à la personne du Christ, on collectionne ses calottes, on collectionne ses cheveux, on garde le verre dans lequel il a bu, le brin de buis dans lequel il a célébré à Troyes la messe des rameaux. Donc on a vraiment une très très grande dévotion pour la personne de Pie VII, d'autant que il semble que ce soit un pontife très modeste, très simple dans son approche et très bienveillant dans ses relations avec ses contemporains, de sorte qu'il cristallise une nouvelle image de la papauté. Le pape dans sa personne n'est plus le prince romain, membre d'une grande famille romaine qui vit dans un état lointain. Il est un bon vieillard qui vient bénir les Françaises et les Français qui demandent sa bénédiction.
Le pape va rester un petit peu à Paris. Qu'est-ce qu'il va faire à Paris? Pourquoi reste-t-il aussi longtemps?
Alors, il est très occupé. Tout d'abord, on lui fait visiter systématiquement les 12 paroisses de Paris. C'est une espèce de visite pastorale dans laquelle on le voit, dans laquelle on fait des portraits de lui, dans laquelle on réclame sa bénédiction. Premier point. Deuxième point, le pape tient deux consistoires. Désigne un certain nombre d'évêques, et notamment des évêques pour le Poitou et la Vendée, qui sont des endroits où la petite église est extrêmement active. Et les deux évêques qui sont nommés seront sacrés des mains du pape à Saint-Sulpice, pour manifester que l'autorité pontificale était pleinement engagée dans la désignation de ces deux évêques, qui ensuite retournent l'un à Poitiers et l'autre à La Rochelle. Et pour Napoléon, si on peut dire, c'est du pain béni, parce qu'en effet, c'est une façon de montrer le parfait accord entre l'Empire d'une part, qui doit encore lutter contre la petite Église, qui n'y parviendra pas complètement du reste, et le siège apostolique. Pour le reste, on lui montre toutes les merveilles du génie français. Alors on l'emmène voir le Jardin des Plantes, le zoo du Jardin des Plantes, l'imprimerie nationale, où on lui imprime le Notre Père dans les 240 ou les 250 caractères typographiques que compte à cette époque-là, depuis François Ier, l'imprimerie nationale. On l'emmène à la Monnaie de Paris. On lui fait visiter le Conservatoire des Arts et Métiers, où on lui montre la pompe à feu, la machine à faire du fil de fer, enfin, qui, en quelque sorte, sont toutes les technologies d'avant-garde. Et on l'emmène même, et c'est la seule fois où il sort de Paris, à Versailles, où pour la seule fois, il donne sa bénédiction à l'air libre. Parce que il était prévu par les articles organiques que l'on ne pouvait pas avoir de manifestation extérieure du culte dans les villes où il y avait d'autres confessions que des catholiques. À Versailles, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de synagogue, donc on peut donner la bénédiction. Et alors là, c'est le spectacle tout à fait incroyable au mois de janvier de voir Pie VII sur le balcon du château de Versailles qui donne dans le jardin, donner sa bénédiction à l'extérieur. Quand on songe à ce qu'on était sous Louis XIV avec l'affaire de la Régale, puis après avec l'affaire de la bulle unigenitus, la bulle vineam domini, les relations entre l'Église de France et le Saint-Siège et la royauté, c'est tout à fait extraordinaire de s'imaginer que Napoléon ait été en quelque sorte l'instrument de cette intervention absolument décisive pour l'histoire même de l'Église de France depuis Pie VII au cours de ces 6 mois.
Le Saint-Siège déjà à l'époque a une administration assez lourde. Comment le pape a-t-il pu, pendant ces 6 mois de voyage, même s'il est resté quasiment 4 mois à Paris de manière fixe, comment a-t-il pu continuer à gérer les affaires quotidiennes de l'Église?
Eh bien, le pape est parti avec 4 cardinaux et le pape a laissé son grand collaborateur de confiance, le cardinal Consalvi, à Rome. De sorte que, le Consalvi le dit d'ailleurs, je me suis retrouvé à cette époque quasiment dans la situation d'un vice-pape, parce que le pape lui avait donné tout pouvoir pour exercer sa juridiction sur l'église de Rome, hormis dans quelques cas réservés, mais finalement assez modestes. Et les congrégations ont continué à travailler parce qu'on ne voulait surtout pas donner le sentiment que la papauté était partie en France dans son ensemble, en quelque sorte. Parce que ça, les autres puissances ne l'auraient pas compris. Et d'ailleurs, ça a semé une assez grande émotion parmi les puissances européennes lorsqu'on a dit que le pape partait à Paris. Parce qu'à part le précédent du voyage de Pie VI à Vienne en 1782, là, pour le coup, on a tenu à manifester que la structure institutionnelle du Saint-Siège continuait de travailler, les congrégations continuaient de travailler, Consalvi était le maître d'œuvre de tout ça, avait des rapports relativement distants, parce qu'il fallait parfois près d'une quinzaine de jours pour que le courrier arrive depuis Paris. Et de son côté, le pape avait convié avec lui un certain nombre de cardinaux, dont le cardinal Antonelli, lequel avait géré la secrétaire d'État pontificale depuis Paris. Et donc, on a des lettres du pape au prince régent du Portugal, au roi d'Espagne, au président de la Confédération suisse, dans lequel le pape continue d'administrer les affaires de l'Église universelle depuis Paris, finalement.